Bruxelles, ma Belge, Delphine Frécinet.
Un logement décent et abordable pour tous, c'est la raison de la lutte du RBDH depuis des années. Le RBDH, Rassemblement Bruxellois pour le droit à l'habitat, qui regroupe une soixantaine d'associations engagées aux côtés des personnes mal logées. Le RBDH tire la sonnette d'alarme auprès des pouvoirs publics. La crise du logement touche, on le rappelle, 60% de Bruxellois. Il est urgent d'agir. Et pour cela, le RBDH publie un mémorandum qui liste 61 une proposition. Alors, on va pas les détailler toutes, mais on va voir avec Chloé Thom en quoi ce mémorandum est utile. Bonjour Chloé.
Mais bonjour Delphine.
Alors, à quoi il sert ce mémorandum ?
Oh waouh !
Direct. Ah oui, on attaque. Bah oui, finalement, parce que comment un mémorandum, bon, bah c'est bien, on rend tout un rapport, c'est ça, c'est un mémorandum. Ouais. Ok. Bon.
Ben c'est ça. Mais écoute, t'as déjà vachement bien travaillé parce que je comptais rappeler un petit peu ce que les RBDH faisaient, etc. Mais tu fais très bien ton travail. Mais effectivement, dans nos missions, on a pas mal de choses à faire. On a beaucoup de travail. Mais effectivement, il y a valoriser, encourager, soutenir le travail qui est fait par nos équipes de terrain à travers les membres. Donc effectivement, comme tu disais, une soixantaine d'associations qui travaillent vraiment sur le terrain, qui font un travail de dingue. Mmh. Et je les félicite et je les encourage encore une fois à travers des interventions comme celle-ci. On a un travail de sensibilisation du grand public, en effet, pour rappeler, parce qu'en fait, c'est jamais assez, que ce droit au logement, c'est un droit qui est fondamental. Et en fait, à travers toutes nos activités, nos actions, à travers les analyses et les études, avec tous les moyens qu'on a, on se rend compte qu'on a encore beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est un droit qui devrait être défendu
au même titre. Et qui n'ose pas réclamer, qui n'ose pas se battre pour ça. Un petit peu comme beaucoup de gens qui ont droit à des prestations sociales, eh bien, ne les demandent pas en se disant, non, quand même, c'est pas pour moi, ou je vais peut-être pas prendre l'argent de quelqu'un d'autre.
Tout à fait. Ou ont même une vision, je dirais, globale de la société, de l'évolution des choses, c'est qui est beaucoup plus fataliste, en tout cas, concernant le logement, parce que on se dit, mais c'est comme ça. Alors qu'en fait, non, on aurait effectivement de quoi revendiquer beaucoup plus, étant donné que c'est inscrit dans notre constitution. Et donc, voilà, ça, c'est un gros travail, effectivement, au niveau de la sensibilisation. On forme, on outille aussi les travailleurs, les travailleuses de terrain, mais on a un gros volet dans nos missions qui est ce plaidoyer politique. Et en effet, là, le mémorandum est un peu vraiment un outil ultra important qu'on chaque fois qu'on remet à jour à chaque législature, effectivement, qui est adressé, qui fait en fait un état des lieux. Alors, on le fait à travers les analyses, les études, tout au cours de la législature, je vais y arriver. C'est un mot difficile à dire. Mais,
c'est vrai.
Mais, effectivement, on fait très régulièrement par thématique ou de façon parfois plus générale un état des lieux. Où est-ce qu'on en est au sujet de cette difficulté-là en particulier liée au logement. Ensuite, on liste un peu les mesures qui ont été entre guillemets promises et puis de voir est-ce que c'est effectif et les évaluer. Oui. Et donc, clairement, le mémorandum, c'est un peu l'anniversaire là, chaque nouvelle élection.
C'est
qui
faire, c'est, voilà, on fait un petit bilan. Alors, ce qu'il y a les bons points, les mauvais points. Par exemple, les marchands de sommeil, ça commence à être une lutte vraiment efficace. On lutte efficacement contre les marchands de sommeil, ou pas?
Alors, je dirais que l'évaluation du travail qui est fait à travers ces mesures, il est plutôt, concrétisé dans le baromètre, qui est un autre document. Le mémorandum, c'est vraiment de proposer des mesures concrètes.
Oui.
Donc, c'est moins d'évaluer ce qui a été fait ou pas fait ou pas assez fait, mais plutôt de donner des idées concrètes aux hommes et aux femmes politiques.
Par exemple, on peut en citer quelques-unes quand même,
alors,
Chloé.
Alors oui, c'est ça. Alors, je voulais quand même, effectivement, sans rentrer dans un détail, j'invite les auditeurs auditrices à se plonger dans ce document qui est tout à fait accessible.
Qu'on trouve sur votre site internet.
Voilà, qu'on trouve sur notre site internet en première page, donc rbdh.be. Vous le trouvez sur notre page Facebook, sur notre compte Instagram. Enfin voilà, tous les liens seront là. Et effectivement, c'est accessible. Ça rentre dans des propositions qui sont très concrètes, qui sont réalistes aussi. Parce que parfois on se dit mais c'est bien mignon, mais on n'y arrivera jamais.
Utopiste,
mais en fait on est aussi conscient de ça. On est conscient que nous on demande un accès à un logement décent et abordable, et qu'en fait il y a énormément de luttes et qui convergent souvent. Mais je veux dire, on n'est pas les seuls à demander des moyens pour pouvoir rendre ce droit efficace. Mais donc c'est vraiment aussi réfléchi avec avec quand même un petit peu de réalisme, mais aussi un peu d'utopie, parce qu'il faut garder un peu cette utopie, sinon on n'y arrive jamais.
Il faut rêver plus grand pour se dire on va essayer de pas perdre nos rêves de vue.
C'est ça. On a en tout 8 grandes thématiques, dont des thématiques là que je vais citer qui vont vraiment concerner les personnes qui nous écoutent, je pense, c'est le logement social, la baisse des loyers, l'insalubrité, le logement vide et les expulsions. C'est, je dirais, vraiment là des thématiques tout le monde est d'une façon ou d'une autre concerné, ou en tout cas on est conscient de ces difficultés-là. Alors pour donner un exemple concret, tout ce qui est insalubrité, on a au total 8 mesures concrètes qui sont proposées. La première, c'est, je dirais tout simplement, de multiplier les visites d'initiative, c'est-à-dire les contrôles. On sait qu'il y a énormément de logements qui ne répondent pas au code du logement. Encore faut-il les contrôler pour pouvoir justement, après, en conséquence, voir ce qu'on fait. Après, il y a toujours des difficultés. Si c'est fermer le logement, le problème, c'est que les personnes qui trouvent ce logement, on sait très bien qu'elles sont victimes souvent de discrimination, et donc ça voudrait dire les remettre dans la galère. Il faut évidemment lire ces mesures qui sont souvent
rien n'est noir et blanc, c'est pas manichéen. Exactement. Il faut un petit peu de subtilité et comprendre les enjeux. C'est ça qui est compliqué.
L'idéal serait de fermer les logements qui sont insalubres, bien entendu, mais avec une compréhension du système qu'il y a derrière. Et que non, souvent j'ai déjà eu ça, des personnes qui me disent « Ah ben oui, mais si le logement est insalubre, il suffit de le déclarer insalubre et alors on nous donne un logement social. » J'ai dit « Oui, mais c'est sans compter qu'on a 52 000 ménages qui sont en attente. »
Qui sont déjà en attente de logement social. Donc, et certains attendent déjà depuis 10 ans. Il y a des listes d'attente.
Oui, ça va jusqu'à 15 ans, voire 18 ans pour les familles nombreuses. J'y arriverai. Et par exemple, je voulais aussi juste donner l'exemple du logement social. On en vient. Oui. On a 7 mesures là qui sont proposées. La première mesure, elle concerne les terrains publics. Ce qu'on demande, c'est que sur les terrains publics, on crée ou on construise 100% de logements publics. Ça paraît hyper évident.
De logements sociaux.
Donc, à vocation sociale. Oui. Et donc, on sait que les grandes zones stratégiques appartiennent à la région, mais ça devient de plus en plus précieux parce qu'on en a de moins en moins. Donc ça nous semble évident que la promotion immobilière privée, elle n'a résolument pas sa place sur ces terrains-là. Et pourtant, c'est pas le cas. Donc parfois, il y a des façons de réaliser à quel point il y a des choses qui nous semblent évidentes, qui ne sont pas effectives. Et donc, à travers ces mesures concrètes, on peut aussi dire des choses qui nous semblent vraiment urgente à mettre en place et qui sont même c'est hallucinant que ce soit pas encore le cas.
Oui. Et puis surtout aussi, il y a peut-être aussi des choses qui vont changer quand même, Chloé Thom, c'est que le confinement, toute la période, toute la pandémie, le confinement, ça a bouleversé des codes sociaux, des façons de sortir, des façons de vivre et des façons de travailler. C'est-à-dire quand il y a eu encore plus de télétravail. Pourquoi, s'il y a du télétravail, pourquoi continuer à construire des buildings pour des sociétés de bureaux? Donc ça aussi, peut-être qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là.
Oui, mais c'est très lent. Et donc les grands chantiers qui ont été lancés dans les années juste avant ou pendant qu'était déjà lancé ce confinement, malheureusement, il faut rentabiliser ça.
C'est ça.
Donc il y a même des projets mais ahurissants de destruction et de reconstruction de bureaux qui correspondent mieux à la demande d'aujourd'hui. Il y a parfois
Oui, on marche un peu sur la tête.
Oui, vraiment. Mais donc, ce mémorandum, il s'adresse évidemment avant tout aux hommes et aux femmes politiques qui vont, on l'espère, s'en inspirer pour leur programme, pour leur campagne.
Parce qu'on vote cette année, on ne vote pas qu'une fois.
Leur législature, donc. Mais comme tu dis, il s'adresse aussi aux électeurs, aux électrices qui ont ce pouvoir. Il faut se le rappeler, de pouvoir décider qui va mettre ces mesures concrètes en place. Parce que à travers le vote, on a aussi une façon
C'est le pouvoir
concrète.
De l'électeur.
Exactement.
Et alors justement, est-ce que le logement, c'est un enjeu de campagne que les politiques comprennent là? Est-ce qu'ils en ont conscience?
Mais souvent, ils en ont conscience, parce que je pense que c'est juste impossible de passer à côté.
De toute façon,
ça paraît très, très évident. Le problème, c'est toujours...
Est-ce qu'ils le mettent au cœur de leurs priorités?
Pas forcément, parce qu'il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu dans leur campagne et dans la volonté de plaire aussi à l'électeur. Mais c'est justement, c'est une très très bonne transition qui m'amène à notre, je dirais, slogan de campagne, oui, qu'on va lancer en même temps que ce mémorandum. On a choisi un slogan qui, selon nous, est un peu un résumé, en fait, de toutes ces mesures. On voulait pas mettre forcément une seule mesure en avant, parce qu'en fait, elles sont toutes vraiment très importantes. Et ce qu'on a sorti, finalement, comme idée, c'était d'avoir ce logement rentable barré et ville habitable en gras, en couleur. Et en fait, c'est vraiment ça, ça illustre ce paradoxe qui aujourd'hui est le cas du logement et qui fait que dans un programme électoral, c'est pas si évident le point de vue et où on se place et du coup, ce qu'on met comme priorité, c'est que tant que le logement, il aura deux fonctions en même temps, une fonction marchande et une fonction vitale, forcément, on ne peut pas défendre correctement un droit s'il est en même temps une marchandise. Et donc, c'est là qu'aussi, au niveau des programmes électoraux, il y a un choix à faire.
Oui.
Et c'est pour ça aussi que ce mémorandum donne des informations aussi aux électeurs, aux électrices, pour mieux comprendre déjà ce qu'on a le droit d'exiger, ce qui est possible de faire sans mettre à mal forcément l'économie, ou parce que c'est souvent ou la nature, on a beaucoup de débats comme ça où on met les choses un peu en lice volontairement pour diviser. Mais en fait, il y a un projet de société qui est possible à construire tout en respectant en fait la dignité de chacun et chacune.
Exemple concret justement, Chloé, l'indexation des loyers. Vous pourrez continuer à faire ça ou l'encadrer ou pas.
C'est une des propositions dans la baisse des loyers.
Parce qu'il y a des propriétaires qui indexent plein pot, d'autres qui disent non, c'est bon, on va rester des sangs humains, on n'indexe pas. Et ça a des répercussions sur la vie de tous les jours.
Exactement, c'est le deuxième point après le logement social, qui est quand même une des réponses assez efficaces à la crise du logement. Dans un premier temps, c'est de produire plus de logements sociaux. Ça, on le répète depuis des années. Mais c'est sûr que la baisse des loyers, ça a aussi un impact, du coup, forcément, sur l'accessibilité, parce qu'on aurait besoin de moins de logements sociaux si les loyers étaient un tout petit peu plus abordables. Il y a un tas de gens qui, aujourd'hui, sont éligibles au logement social, mais qui pourraient, du coup, se loger sans logement privé, le marché privé.
Oui.
On aurait aussi nettement moins d'expulsions. On sait que 80% des expulsions domiciliaires, elles sont dues à un arriéré loyer. Mais c'est parce que ça devient impossible. Même en travaillant, même avec toute la volonté du monde, il y a un moment où on ne sait plus. Et donc, il y a en fait une série de choses qui se retrouvent dans ce mémorandum qui seraient réglées juste en encadrant les loyers.
Oui.
Et un exemple très très
sans pour autant
clair,
bien évidemment pénaliser les petits propriétaires, on est bien d'accord,
sait qu'en 10 ans les loyers ils ont augmenté de 20% hors indexation, donc ça veut dire que cette hausse on peut pas la justifier par l'inflation, mais c'est juste par ce qu'on écrit là, l'appétit des bailleurs. Donc il y a un moment où effectivement si on encadre ça, il y aura moins de profits d'un côté, mais on pourrait réguler un tout petit peu et arrêter cette envolée des loyers qui fait aussi du coup que 60%, comme tu disais, 60% des bruxellois sont locataires. Et donc forcément, ces locataires, ils subissent de plein fouet ces discriminations, cette hausse des loyers. Et donc on sait que les loyers, ne cessent d'augmenter. On a le parc qui est vieillissant et tout ce qui est effort d'entretien et les rénovations, ça suit pas du tout assez, en fait. On essaie tant qu'on peut, mais ce sera jamais assez rapide parce que forcément, tout vieillit en même temps.
Ouais.
On a reconstruit ça, après-guerre. Les phénomènes discriminatoires, ça, on sait forcément qu'ils sont renforcés dès qu'il y a un peu plus de compétition, de compétitivité pour l'accès à des loyers qui restent abordables. Forcément, il y a une discrimination qui se crée. Et puis, avec ce logement social qui est insuffisant, c'est ce qu'on le répétait, on a un quotidien quand même de dizaines de milliers de locataires qui se trouvent impactés. Et on sait qu'avec ce logement qui ne peut plus garantir une dignité au quotidien, on a des risques d'endettement, d'exclusion sociale, d'effets sur la santé. Donc ça aussi, ça a un coût pour la société.
Oui.
C'est là que ce n'est
tout
pas
est,
juste...
Tout est imbriqué,
évidemment.
C'est pas juste... Voilà.
Évidemment, c'est un projet de société, c'est pas juste une vision... j'en sais rien, moi, gauchiste,
utopiste, ou anarchiste, ou gauchiste,
voilà.
Oui.
C'est aussi juste un équilibre à trouver, même au niveau économique. Ça coûte moins cher d'anticiper toutes ces exclusions, ces problèmes de santé, etc., que après coup de créer tout d'un coup des plans hiver et d'ouvrir des... Enfin, voilà, on le répète.
C'est là où on dit mieux vaut prévenir que guérir, hein, c'est
exactement,
ça
voilà.
Exactement.
Ouais.
Un rendez-vous important, dernière question pour le RBDH, Chloé, il n'y a pas le Housing Action Day
exactement,
bientôt?
Exactement, mais donc forcément le mémorandum s'inscrit dans cette grande campagne préélectorale, mais avec des temps forts, on va le prévoir tous les mois à partir de 2 février jusqu'aux élections, mais il y en a effectivement les Housing Action Days.
Parce que, oui, voilà, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs.
Ça va s'étaler sur une semaine qu'on espère aussi festive, revendicative, mais festive, qui commencera le 30 mars jusqu'au 7 avril. Et donc, toutes les informations se retrouveront sur la page du RBDH, sur le site, mais aussi du coup sur le site du Housing Action Day. Et donc, là, on invite évidemment les gens à s'informer aussi à travers les activités, les rencontres. Il va y avoir un tas de festivités, effectivement, qui vont commencer petit à petit. Mais donc, on reviendra de toute façon vous en parler sur les ondes de l'air.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Chloé Thome, je rappelle, du RBDH Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat. Merci.
Merci, Delphine.